Salam alaikum mes chers loulous, j'espère que vous allez bien. Nous avons déjà partagé de nombreux moments ensemble. Alhamdoulilah. Je voulais du fond de mon cœur vous offrir un petit cadeau à l'occasion de la belle fête de l'Aïd. Je vous la souhaite merveilleuse, joyeuse et pleine de surprises. Aïdkou Moubarak Karim. Voici pour vous le deuxième épisode de l'histoire de notre bien-aimé prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Bonne fête mes petits loulous et à très bientôt pour de nouvelles histoires. Tu t'en rappelles peut-être, Mohammed a grandi dans la maison d'Abu Talib, son oncle, avec ses cousins et cousines. C'est un jeune homme maintenant. Il aide son oncle à nourrir sa famille. Il l'accompagne et apprend le métier de commerçant avec lui.
Et guide les caravanes.
À l'époque, le commerce ne se faisait pas à travers des magasins comme aujourd'hui. Ce sont les marchandises qui voyageaient d'une ville à l'autre grâce à des caravanes de chameaux. Et sur les places des marchés, les gens venaient acheter et vendre les marchandises. C'était une tâche très difficile d'amener les caravanes dans les villes. Le chemin était long, épuisant à travers le désert et parfois les caravanes étaient attaquées. Parfois, quand il le pouvait, lorsqu'il n'était pas occupé par les caravanes d'Abu Talib, Mohammed offrait ses services à d'autres commerçants. Tous étaient contents de son travail. Mohammed amenait la caravane en sécurité, vendait toutes les marchandises, il faisait du bénéfice et il rapportait plus d'argent que prévu et donnait toute la recette au propriétaire de la caravane. Si bien que vite, on l'appela Mohammed el-Amin. Celui qui est digne de confiance. Masha'Allah. Sais-tu, mon loulou, c'est quoi être honnête? Quelqu'un d'honnête, c'est une personne qui ne triche pas, qui dit la vérité, qui ne fait pas des coups en douce. Quelqu'un en qui on a confiance. Je te souhaite de l'être, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une très grande qualité. Khadija bint Khuwaylid est aussi commerçante à la Mecque. On l'appelle la Tajira, la marchande. Elle était veuve, son mari était décédé. Nufaïssa, sa servante, lui dit un jour « On dit bien des choses en ville. » Khadija répond « Qu'est-ce qu'on raconte à la Mecque ?»« C'est à propos d'un certain Mohammed. Il est commerçant chez Abu Talib. On dit qu'il est un très bon commerçant. Il a de la baraka dans ses mains. » Les gens le surnomment l'honnête, el-Amin. J'ai entendu qu'il cherche à travailler. Khadija, intéressée, dit « Si ce que tu dis est vrai, j'ai besoin justement de quelqu'un en ce moment. Les gens honnêtes, ça ne court pas les rues. Va me le chercher, je vais lui parler. » Nufaïssa se rendit chez Mohammed et lui proposa de venir travailler chez Khadija. Mohammed fut étonné. Khadija était riche et connue pour être une très grande commerçante. Il accepta sa proposition de travailler à son service. Elle l'envoya vers les pays de Chem, vers la Syrie. Un de ses esclaves, Meysara, l'accompagna. Quelque temps plus tard, la caravane était de retour. Et de sa maison, Khadija put observer qu'un nuage suivait une seule personne, Mohammed. Ce nuage semblait le protéger des rayons du soleil. Elle en fut surprise. Meysara, l'esclave, lui raconta que tout s'était bien passé. Toutes les marchandises avaient été vendues, avec beaucoup de bénéfices. Et Mohammed avait été très gentil avec lui. Khadija s'en réjouit. Mohammed, comme d'habitude, remit la recette de la caravane, tout l'argent, à Khadija, sans enlever un sou. Elle le récompensa pour son travail et le paya. Khadija avait remarqué que Mohammed avait de bonnes manières, qu'il baissait les yeux en sa présence, qu'il n'élevait pas la voix. Et chaque fois qu'il entrait chez elle, il y avait un petit vent frais qui soufflait comme s'il y avait un ventilateur. Dès qu'il sortait, il faisait de nouveau très chaud. Khadija était très satisfaite du travail de Mohammed. Un jour, elle se confia à sa servante Nufaïssa. « Nufaïssa, viens ici un peu. Je dois te parler d'une affaire délicate. » Oui, madame, qu'y a-t-il de si grave ?
Khadija, gênée, finit par avouer.
Voilà, je dois te confier un secret. Je voudrais me marier avec Mohammed.
Nufaïsa, surprise, questionna.
Mohammed Ibn Abdallah ? Celui qui travaille pour vous ? Votre agent de commerce ?
Oui, oui, c'est cela, avoua Khadija.
Mais, noble maîtresse, il est pauvre et plus jeune que vous. Que dirait-on à la Mecque ?
Je sais tout cela, répondit Khadija. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide et de ta discrétion. Tu ne dois en parler à personne, tu as compris ?
Ne vous en faites pas, madame. Je ferai le nécessaire. Je serai discrète. Personne n'entendra parler de cette affaire. J'irai parler à Mohammed et lui transmettrai votre demande. Ne vous inquiétez pas.
Quelque temps plus tard, Nufaïsa se rendit chez Mohammed. Mohammed, quand il vit Nufaïsa, pensait que Khadija avait besoin de lui pour guider une caravane. Mais Nufaïsa lui annonça qu'elle venait pour autre chose. Elle essaya de trouver les bons mots pour parler. Elle commença par lui dire que sa maîtresse, Khadija, voulait se marier.
Mohammed répondit que ce n'était pas ce qui manquait à la Mecque. Tous les nobles et riches Mécois voulaient se marier avec elle.
Puis Nufaïsa lui demanda indirectement si lui, Mohammed, n'avait pas envie de se marier.
Mohammed l'arrêta tout de suite, lui disant qu'il était pauvre et n'avait pas les moyens de se marier maintenant.
Nufaïsa essaya une nouvelle fois, en disant « Et si vous trouvez une femme riche, convenable, de noble famille, accepteriez-vous »
Mohammed, étonné, répondit « Mais qui peut s'intéresser au simple caravanier que je suis ?»
Quand il apprit que c'était Khadija bint Khawlid, il fut le premier surpris. Mais c'est impossible, Khadija n'acceptera jamais. Tous les riches de la ville veulent se marier avec elle. »
Nufaïsa le rassura en lui disant qu'elle allait s'occuper de tout. Mais l'affaire ne fut pas facile. Khadija devait demander le consentement à son oncle. Ses parents étant morts, c'est lui qui devait donner son accord pour ce mariage. Mais celui-ci refuserait, car Mohammed était jeune et pauvre. Jamais il n'aurait permis un tel mariage. Mais Khadija était déterminée. Elle organisa un repas de fête. Elle invita son oncle et la famille de Mohammed. Les deux familles furent réunies autour d'un succulent repas. L'oncle de Khadija était joyeux. Il mangeait et buvait beaucoup. À l'époque, l'alcool n'était pas interdit. Lorsque son oncle fut un peu ivre, Khadija en profita pour demander l'accord de son oncle. Ne sachant pas très bien ce que lui avait demandé Khadija, il répondit « Oui, 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 tout joyeux ». Et c'est ainsi que le mariage fut célébré. Les félicitations, les acclamations retentirent, et des youyou aussi. Le lendemain, l'oncle de Khadija se rendit compte de son erreur.
« Quoi ? J'ai donné mon accord au mariage de Khadija, ma nièce, à ce pauvre Mohammed ibn Abdallah de Banu Hashim ? Mais c'est impossible !»
L'oncle dut se rendre compte de son erreur. Il avait donné son accord devant tout le monde. Et en Arabie, la parole était un honneur. On ne revient pas sur sa parole, surtout quand elle est dite en public. Et il dut accepter le mariage de Khadija, sa nièce, avec Mohammed ibn Abdallah. Khadija et Mohammed étaient très heureux. Khadija n'eut jamais à regretter son choix. Toutes les qualités qu'elle avait vues en Mohammed lui ont permis de vivre très heureuse. Leur mariage fut béni. Ils ont fondé une belle famille. Khadija eut 6 enfants. 2 garçons, El Qasim, l'aîné. On appela Mohammed Abul Qasim, le père de Qasim. Puis vinrent 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kalthoum et Fatima. Puis Abdallah. Mais malheureusement, les garçons sont morts en bas âge. Quelle tristesse! Mais il n'y avait pas de plus belle et heureuse famille à la Mecque. Masha'Allah!
Suis-moi, nous allons entrer dans la maison de Mohammed. Elle était toute simple. À l'époque, je crois que je te l'ai déjà expliqué, il y avait des esclaves. On achetait avec de l'argent des hommes, des femmes, des enfants. Ils devaient travailler pour leur maître ou leur maîtresse.
soit à la maison, soit dans les champs, soit dans les caravanes de commerce. Ils travaillaient péniblement. Ils avaient perdu leur liberté. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. À la Mecque, il y avait d'un côté les gens libres et de l'autre les esclaves.
Zayd est un enfant de 8 ans. Au cours d'un voyage, on l'attrapa et il devint prisonnier. Le pauvre enfant fut vendu comme esclave à la Mecque.
C'est le neveu de Khadija, Hakim, qui l'acheta. Il l'offrit à sa tante Khadija. C'est ainsi que Zayd vécut dans la maison de Mohammed et de Khadija.
Zayd n'était pas traité comme un esclave auquel on donne des ordres. « Va faire ceci, va m'apporter cela. »
Non, 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 non. Il était bien traité par Mohammed et Khadija. C'était comme l'un de leurs enfants. Ils jouaient ensemble et mangeaient les mêmes plats. Il y avait une belle ambiance dans la maison de Mohammed et Khadija.
Un jour, le père et l'oncle de Zayd se rendirent à la Mecque. Son père avait appris que son fils était esclave chez Mohammed. Il décida de le récupérer. Il frappa à la porte.
« Salam alaikum, Mohammed al-Amin. On m'a rapporté que vous aviez un esclave du nom de Zayd ibn Haritha. Je suis son père, voici son oncle. Nous venons le récupérer. Dites-moi votre prix, je vous verserai de l'argent en échange de Zayd, mon fils. »
Mohammed le fit entrer. Il comprit que l'affaire était sérieuse. Avant de parler d'argent, Mohammed proposa de demander l'avis à Zayd. Il le fit appeler.
Zayd reconnut son père, son oncle. Il était content, heureux de les retrouver. Il sauta dans leurs bras.
Mohammed dit, « Ton père, ton oncle sont venus te chercher, afin que tu retournes dans ta famille. Tu as le choix, Zayd. Dis-nous ce que tu décides. »
« Oh, je suis si heureux de vous revoir !» s'exclama Zayd.
Il baissa la tête et ajouta, « Cher père, cher oncle, je veux rester ici avec Mohammed et Khadija. Ils sont bons avec moi. Mohammed me traite comme son fils. Et puis j'ai vu en mon maître quelque chose qui me pousse à rester auprès de lui. »«
Tu es sûr, Zayd ?»
poursuivit son père. « Tu ne veux pas rentrer avec nous pour voir ta famille ?» Ton village ne te manque-t-il pas ?
Oui, père, vous me manquez, mais j'ai vu tellement de bonnes choses dans cette maison que je préfère vivre ici, auprès de Mohammed.
En entendant ces mots, Mohammed décida d'adopter Zayd comme son fils. Il sera son fils adoptif. Il ne sera plus esclave.
Le père de Zayd fut rassuré. Il décida de laisser son fils vivre auprès de Mohammed et Khadija.
Zayd ne quittera plus le prophète. Nous le retrouverons dans d'autres histoires, Inch'Allah.
Un autre enfant allait venir agrandir la famille. Abu Talib, l'oncle du prophète, qui l'avait accueilli alors qu'il était orphelin à l'âge de 8 ans, avait des difficultés. Il n'arrivait pas toujours à nourrir sa famille. Mohammed l'avait remarqué. Il voulait lui venir en aide à son tour et ainsi le remercier de tout ce qu'il avait fait lorsqu'il était petit. Il réfléchit et décida de prendre en charge un de ses cousins, Ali, le plus jeune. Abu Talib accepta. Ali ibn Abu Talib vint rejoindre la famille de Mohammed et Khadija. Des cris, des jeux, des rires. Quel bonheur, quelle joie dans la maison de Mohammed et Khadija. Ali aussi ne quittera plus le prophète et prendra une grande place dans la suite de l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions dans la maison de Mohammed. Maintenant sortons, nous allons nous diriger vers la Kaaba. Ce n'est pas très loin, elle est là, bien grande, il y a plein de gens autour. Ils semblent se disputer. Il y a un brouhaha incroyable. C'est jour de marché.
C'est nous qui allons remettre la pierre noire à sa place.
Pas du tout, dit un groupe. Nous sommes les plus riches de la Mecque. Et c'est à nous que revient cet honneur.
Vous dites n'importe quoi, s'écrièrent d'autres.
Nous sommes les plus nobles de la ville. C'est à nous que revient cette tâche.
Donnez-nous la pierre.
Mais pas du tout, vous n'avez aucun droit. Nous sommes les plus anciens, Nos familles sont installées à la Mecque depuis des générations. À nous revient ce droit. »
On ne s'entendait plus. La Kaaba était en reconstruction. Il y a eu de fortes pluies et les pierres de la Kaaba étaient endommagées, cassées. Il fallait faire des travaux. Tous les jours, toutes les tribus de la Mecque étaient venues donner un coup de main pour la reconstruire. Toutes les plus grandes familles de la Mecque s'y sont mises, et même les Banu Hashim, la famille de Mohammed. Les Qurayshites y tenaient tellement, c'était leur temple sacré. Ils y mettaient leurs statues. Chaque année, il y avait une grande foire. Tous les gens venaient de tout partout pour vendre, acheter et pour tourner autour de la Kaaba. C'était un lieu de rassemblement important pour les Qurayshites. C'était le moment du pèlerinage. Et comme il y avait beaucoup de monde, le commerce rapportait beaucoup d'argent. Il fallait donc prendre soin de la Kaaba. Mais lorsqu'elle fut reconstruite, il ne manquait qu'une chose à faire, remettre la pierre noire. Tu te rappelles, c'est la dernière pierre que le prophète Ibrahim, alayhi salam, a posée pour terminer la Kaaba.
« Taisez-vous, taisez-vous, on ne s'entend plus !» cria un vieux monsieur. Un silence en suivit. « Je vous propose quelque chose. Nous avons vraiment besoin d'un arbitre, quelqu'un qui va trancher entre nous, qui va prendre la bonne décision. Le premier qui entrera sur la place de la Kaaba sera notre arbitre. » Tous furent d'accord.
Eh bien, c'est Mohammed qui entra le premier. Tous l'accueillirent avec empressement.
« Ah, Mohammed el-Amin, tu tombes bien. Viens, viens par ici. Regarde, nous avons un sérieux problème. »
Nous avons terminé les travaux et il ne manque plus qu'à remettre la pierre noire à sa place. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Quelle tribu va la replacer? Nous voulons tous la remettre. Conseille-nous. »
Mohammed les écouta. Il demanda qu'on lui apporte un drap. Il le mit sur le sol et il y déposa délicatement au centre la pierre noire. Puis il demanda à chaque chef de tribu de prendre un pan du drap, un morceau du tissu, et de soulever en même temps le drap. Lorsque le drap arriva à la hauteur de la pierre noire, il saisit la pierre doucement et la remit à sa place. Tout le monde était content. Toutes les tribus avaient participé à la pose de la pierre. Les disputes cessèrent et le travail put reprendre.
Tu as vu, Mohammed a su être conciliant. Il a trouvé la solution pour mettre tout le monde d'accord. Tu vois, à la Mecque, tout le monde avait confiance en Mohammed. Ah, j'ai oublié de te dire que les Qurayshites avaient tellement confiance en lui qu'ils déposaient chez lui des objets de valeur. À l'époque, il n'y avait pas de banque. Lorsque les gens partaient en voyage, ils venaient déposer chez Mohammed leur argent, leur or, leurs épées. Lorsqu'ils revenaient, Mohammed rendait ce qu'ils avaient déposé. Mohammed était honnête. Tout le monde l'appréciait pour ses qualités. Tu as peut-être remarqué qu'au cours de cette histoire, Mohammed a été protégé depuis sa naissance, comme si quelqu'un, quelque chose le surveillait de loin. Tu te rappelles du petit nuage au-dessus de son chameau? Tout le monde l'appréciait à la Mecque. Il avait de bonnes qualités. Mais lui n'aimait pas ce que faisaient les Qurayshites, qui adoraient les idoles, les statues, qu'ils mettaient dans la Kaaba. Il ne se mélangeait pas à eux, il ne participait pas à leurs fêtes, il ne les comprenait pas, il s'éloignait d'eux. Souvent, il partait des jours et des jours, il quittait la Mecque pour aller grimper dans les montagnes. De là-haut, il voyait la Kaaba, elle était toute petite. Il prenait un sac de nourriture et restait là, à réfléchir, à méditer, à observer le ciel, les étoiles, les montagnes. Au cours de ses promenades, il a escaladé la montagne En-Nour, la lumière. Il y trouva une grotte assez grande pour s'y tenir debout. Il décida d'y entrer, de s'installer, et il médita longtemps. Il était bien dans cette grotte, loin du bruit et de l'agitation de la Mecque.
Voilà, mes petits loulous, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode.
Je vous retrouve bientôt pour la suite de l'histoire.
Salam alaikum, mes petits loulous.